Alors, j'ai repris le PDF. Il y a une chose que j'ai modifiée, je dirais laquelle, de manière à ce que ce soit intègre vis-à-vis de ce ministère-là. Mais vraiment, j'ai apprécié. Alors, ils continuent à former des équipes et ensuite, ils amènent les équipes sur la promenade des Anglais et afin que les équipes soient à la disposition. Vous comprenez qu'un chrétien, il ne chasse pas une proie. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Soyons clairs. On n'est pas en train de chasser des proies. On est à la disposition de Dieu et on se laisse guider. Je vous donne un exemple. Je suis allée sur la promenade des Anglais l'autre jour et je me suis dit, bon Seigneur, je suis à ta disposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais aider? Et j'ai marché et je n'ai vu personne. Bon, ce que j'ai fait, j'ai continué mon chemin et je suis rentrée à la maison. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et puis ensuite, on est retourné un soir près du kiosque à musique et ma sœur m'accompagnait. Je ne sais plus, il y avait dû avoir quelque chose avant. Bon, bref. Donc, on s'est rendu près du kiosque à musique et là, on s'est mis encore à la disposition du Seigneur. Puis tout d'un coup, mes yeux se sont portés sur un jeune d'à peu près 13 ans. Mais il était en pleurs. Vous savez, les sanglots qui sont profonds. Il était avec son père. Et mon cœur s'est arrêté vers lui. Et j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux faire. Seigneur, que voudrais-tu faire pour aider ce jeune? Alors, je me suis approchée de lui et avec un mouchoir, parce que j'ai remarqué qu'il n'en avait pas. Je lui ai apporté un Kleenex. Et puis, je lui ai juste posé la question, est-ce que tu as perdu un membre de ta famille dans cet attentat? Il ne pouvait pas répondre, il était en pleurs. Juste un signe de la tête. Alors, je dis, est-ce que tu as peut-être un des amis qui a été blessé? Non, non. Et donc, je regarde son père et il dit non. Et là, dans mon cœur, c'était... Il a sur lui un esprit d'intercession. Et il était en train de s'identifier à la douleur des victimes. Il était en train de s'identifier à la douleur des familles. C'est ça qu'il avait sur lui, un esprit de prière. Et cet esprit de prière, mes amis, on ne peut pas le fabriquer. Il est donné par Dieu. Et alors, j'ai demandé à cet enfant, j'ai dit, mais est-ce que tu es triste à cause de la souffrance qu'ont ces victimes et ces familles? Et il dit oui. Donc, c'était la confirmation. Et puis, j'ai dit, tu sais, je peux voir que tu aimes les gens, c'est cela? Il m'a dit oui. Voilà, conduite, c'était simple, conduite par l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai pu lui donner un conseil. J'ai dit, tu sais, je lui ai dit, je suis chrétienne, je crois en Jésus, et je vais te donner un conseil. Cette tristesse que tu as là, ne la garde pas pour toi. Parle-en à Dieu. Parle au Seigneur de cette souffrance que tu ressens, parce qu'il fera quelque chose avec. Voilà, c'était simple. Mais peut-être que vous avez des collègues de travail qui ont été témoins de cet attentat, victimes, qui ont perdu un proche. Peut-être que vous avez des collègues de la famille qui tout simplement sont traumatisés par ce qui est arrivé à Nice. Il peut y avoir toutes sortes de traumatismes. En tout cas, il y a un espoir que nous pouvons redonner aux gens. Alors, j'aimerais... Voilà, c'est cela. Donc, vous voyez, l'association de Billy Graham apporter l'espoir de Dieu dans une situation de crise. Une situation de crise, peut-être un attentat, comme on l'a vécu, peut-être une perte brutale d'un emploi, ça peut être un traumatisme pour quelqu'un, peut-être un décès, peut-être un divorce, peut-être un accident. Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas seulement la définition que l'on donne, mais l'impact que cela a dans le cœur de la personne. Alors, les objectifs de ce message, c'est reconnaître les effets d'un traumatisme et les différents stades du deuil en ce qui nous concerne pour l'attentat. Savoir parler à ceux qui souffrent et les écouter. Et j'en profite pour dire combien de bouches avons-nous ? Hein ? Certains, ils ne savent pas parce que peut-être qu'ils parlent beaucoup, mais on n'en a qu'une. Il n'y a aucun piège dans la question. Combien d'oreilles avons-nous ? Deux. Et la Bible nous dit, sois prompt à écouter et lent à parler. Et la clé pour aider quelqu'un qui est traumatisé, c'est l'écoute plus que la parole. Et amis chrétiens, vous connaissez les Écritures, vous avez certainement beaucoup de choses à dire, mais un conseil, soyez très modérés dans le nombre de paroles que vous dites à quelqu'un qui est traumatisé. Apprenons à écouter, à écouter, à écouter et à écouter encore. Et puis, ce que l'on va voir, c'est comment partager l'espoir qui existe en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a jamais un traumatisme qui sera trop profond au point où Dieu dise « Je ne peux rien pour toi ». Mes amis, ça n'existe pas. On ne pourra jamais entendre Dieu nous dire, quelle que soit la situation par laquelle on passe, « Je ne peux rien ». Ça n'existera jamais. Dieu pourra toujours quelque chose. Et il faut se rappeler que le Dieu que nous servons est le Dieu de la vie. Dieu n'a pas provoqué cet attentat. Cet attentat, comme je l'ai entendu cette semaine de la part d'un musulman, d'un imam, n'était pas le jugement de Dieu. Amen. Donc pas d'ambiguïté. Et puis, le but également de ce que l'on va entendre, c'est de ne pas faire de mal malgré nos intentions. Parce qu'on peut avoir l'intention d'aider quelqu'un, on peut dire je vais lui apporter un soutien, mais sans nous en rendre compte, on peut faire du mal à cette personne. Donc, on va apprendre quelque chose ce matin qui, j'espère, va vous aider. Il faut savoir que le premier qui a réagi à la douleur, a été Dieu le Père. Dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a vu que l'humanité souffrait dans un état de séparation d'avec lui, et il a fait quelque chose. Il n'a pas seulement eu pitié de nous, il a eu compassion de nous, il a fait quelque chose pour nous sortir de là. Ensuite, dans Matthieu chapitre 11, il est dit, venez à moi, là c'est Jésus qui parle, venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Dans Matthieu chapitre 9, versets 36-38, Jésus, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Et la Bible nous dit que Jésus est le grand berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Alors, les Écritures parlent de tout ce qui concerne notre vie, vous comprenez cela. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie humaine, que ce soit la vie physique, émotionnelle, peu importe, les Écritures couvrent tous les aspects de notre vie. Et évidemment, il est question de la souffrance dans les Écritures. La souffrance qui vient, comme dans le livre de Job, il est indiqué parce qu'il y a une attaque directement de l'ennemi de Dieu, une attaque de Satan. Depuis le Moyen Âge, eh bien, Satan est apparu sous une forme caricaturale avec des cornes, un personnage avec une longue queue, avec une fourche à la main. Et cette cet individu-là n'a rien à voir avec l'ennemi de Dieu tel qu'il est décrit dans les Écritures. La Bible nous dit que quand il a été créé, c'était un personnage qui était extrêmement beau. Pourquoi ? Bah parce que Dieu n'a pu que créer ce qu'il est. Hein. Donc, tout ce que Dieu a créé était beau. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il s'est lui-même, il s'est enorgueilli. Et le péché est né en lui. Il est le père du péché. Il est le père des ténèbres. Il est le père du mensonge. Et cet individu-là, alors moi je suis persuadée, maintenant quelquefois il apparaît comme un ange de lumière, mais je suis persuadée qu'à cause du péché, il est moche qu'il n'en peut plus. Bien sûr, parce que le péché ne peut pas faire autre chose que d'en les dire. Hein. Mais la Bible nous dit qu'il est l'ennemi numéro un de Dieu. Et parce que Dieu aime les êtres humains, Satan est l'ennemi des êtres humains. Alors, eh bien, il agit sur cette terre, il est celui qui influence les êtres humains à faire des choses absolument horribles. Il est celui qui va à inspirer le mensonge, celui qui va donner des idées de suicide, celui qui va donner toutes sortes d'idées qui viennent des ténèbres. Et donc, il arrive eh bien, qu'il directement fasse une œuvre des ténèbres. Également, pourquoi est-ce qu'il est possible de souffrir ? Ben, tout simplement à cause de notre désobéissance. Et là, on ne peut pas accuser le diable de notre souffrance. Hier, avec quelques-uns d'entre vous, on discutait justement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et Marc faisait remarquer, il dit, moi j'ai entendu au moins 8-9 personnes qui d'habitude allaient sur la promenade pour le feu d'artifice. Certains, depuis 40 ans, y allaient. Et ils ont eu la forte impression, n'y va pas. N'y va pas. Il y a d'autres, et vous savez, il y a eu un vent qui était très très soudain et violent qui a soufflé. Et grâce à ce vent, il y a des personnes qui ont dit, j'ai froid, il faut que je rentre. Et même quelquefois, le mari disait, non, on reste. Et il y a eu le cas d'une femme qui a dit, moi je rentre. Et elle est partie, son mari lui a couru après. Donc il y a des tas de gens qui ont été avertis par l'Esprit de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui ont lutté contre cette injonction, contre cette aide de Dieu et qui sont allés et leur désobéissance les a fait souffrir. Il y en a d'autres, quelquefois c'est la désobéissance d'autrui, comme par exemple Uri qui a été tué par David. Uri était un homme qui menait sa vie, la Bible ne parle pas de quelque chose qu'il faisait qui était mal, il menait sa vie et puis la désobéissance de David a fait que Uri a souffert. À vrai dire, David a même tué Uri. Alors, je tiens à préciser par intégrité pour le ministère de Billy Graham qu'à la place de la désobéissance, il y avait là la phrase « Dieu peut envoyer des catastrophes ou tragédies, je ne sais plus ». Personnellement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que Dieu envoie, parce que Dieu est un bon père. Vous savez, aujourd'hui, si un père de famille cassait la jambe de son fils, il serait condamné. On ne peut pas. Alors, voilà, mais par intégrité, je suis obligée de le signaler et ça n'enlève rien à ce que j'ai trouvé de formidable dans ce PDF. La preuve, c'est que je l'utilise et certainement au respect que j'ai pour ce grand ministère. Mais également, on peut souffrir dans notre obéissance. Quelquefois, le Seigneur nous dit « Fais quelque chose !» et il se trouve que notre chair va souffrir. Si par exemple, tu habites dans un quartier qui est confortable, qui est sécurisé, et le Seigneur dit « Je voudrais que tu ailles habiter dans un quartier où il y a la rébellion, dans un quartier où il y a des grandes difficultés, va et aménage là-bas. Crois-moi que tu vas souffrir. » Mais tu serais dans l'obéissance. ce ne serait pas à cause du diable, ce ne serait pas à cause de ta désobéissance. Voilà, par exemple, quand Jésus a dit aux disciples « Allez de l'autre côté », la Bible nous dit que là, il y a eu une grande tempête, ils ont eu peur. Et ces disciples ont été traumatisés, mais ils étaient pourtant dans l'obéissance. Alors, très souvent, quand il y a un grand traumatisme, il y a une question qui revient et c'est « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ça m'est arrivé ?» Pourquoi maintenant, et Mika, je suis sûre que tu vas me suivre, pourquoi un Dieu d'amour l'a-t-il permis? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ai appris à travers toutes ces années de marche avec le Seigneur que c'est OK de poser des questions. Mais il y a une différence entre poser à Dieu la question « Pourquoi ?» dans le but d'avoir une réponse et de poser à Dieu la question « Pourquoi ?» c'est-à-dire en accusant Dieu. Et ce genre de question-là, ne l'articulez pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la terre et qui vont remettre en question la foi que nous avons. Et en même temps, eh bien, pourquoi ne serait-elle pas remise en question? Si ma foi est fondée sur la parole de Dieu, alors la parole de Dieu me tiendra fermement établie dans la foi en Dieu. Mais c'est OK, quand on a des questions, Seigneur, pourquoi? Dieu nous dit « Demandez et vous recevrez ». Comme je l'ai dit la dernière fois, à moins que nous ne posions des questions, nous n'aurons pas de réponse. Mais la nuance est, avec quelle attitude et dans quel but posons-nous cette question? Mais dans un cas de traumatisme, certainement que cette question va revenir. Alors le traumatisme, c'est souvent quelque chose de soudain, d'inattendu, de difficile. Un incident où la vie est menacée, où il existe un risque important de blessure sérieuse. La plupart du temps, l'expérience est si intense qu'elle excède la capacité à faire face. Un traumatisme peut provoquer une réaction due à un traumatisme déjà vécu. Imaginez que quelqu'un ait vécu un grave accident, peut-être, dans son enfance, et il se retrouve dans un attentat. Vous imaginez que le traumatisme va faire ressurgir la brutalité de l'accident qu'il a déjà vécu. Donc c'est un traumatisme qui va être probablement amplifié. Il faut savoir que le traumatisme provoque du stress. Le traumatisme peut être salutaire. Il y a un stress qui est bon. J'espère que quelquefois vous êtes un peu stressé. Parce que si vous n'êtes pas un peu stressé de temps en temps, ça veut dire que vous êtes relativement nonchalant, mais au-delà de la normale. Il y a un traumatisme, un stress par exemple, quand si vous faites des études et que vous avez un mémoire à rendre et vous avez une date butoir. Et là, le stress va monter. Mais ce stress est bon parce qu'il va jouer sur tout votre système et c'est ce qui va vous pousser à aller de l'avant, à relever le défi, à vous bouger. Ça va faire monter l'adrénaline et ça, c'est bon. Mais il y a un stress qui est néfaste, qui peut être provoqué qui peut provoquer une détresse, parce que ce stress, cette détresse serait due à la souffrance, à une anxiété, une affliction, une souffrance physique, émotionnelle ou spirituelle aiguë. Alors, le traumatisme n'est pas sans conséquence. Un traumatisme peut provoquer un dysfonctionnement, c'est-à-dire que le stress peut provoquer la perte de ses capacités à remplir ses responsabilités. C'est quelqu'un qui n'arrive plus, par exemple, à gérer son entreprise, qui n'arrive plus au travail, qui n'arrive plus à même aller chercher ses enfants à l'école pour cette personne. Et il faut savoir qu'il est difficile à une personne qui ressent un tel stress, qui en est arrivé à un dysfonctionnement, de rebondir sans une aide ou une intervention extérieure. Et c'est là où nous, chrétiens, nous pouvons être une aide si nous détectons des symptômes comme cela. Le traumatisme perturbe. Il perturbe la sécurité dans le sens, le sentiment de sécurité, la confiance en soi. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son travail parce que son employeur voulait donner son poste à quelqu'un. Et dans certaines grandes entreprises, eh bien, la technique est horrible, c'est qu'ils vont carrément mettre cet employé dans le placard. Ils vont peut-être lui changer de bureau, changer des stages, l'isoler jusqu'à ce que cet employé craque et donne sa démission. Ben, vous imaginez que le stress négatif que ça provoque, le traumatisme que ça provoque, eh bien, il est fort possible que cette personne commence à mettre en doute la confiance en soi, la confiance dans son expertise professionnelle, etc. Le traumatisme perturbe les relations, perturbe la sensation de confort, perturbe la foi, peut perturber les projets, les rêves, les objectifs qu'a cette personne, peut perturber certainement l'esprit de famille, l'ambiance familiale et peut même ôter l'espoir à quelqu'un. Le traumatisme conduit souvent au silence. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Vous savez, on m'a demandé d'intervenir pour une rencontre œcuménique à l'hôpital Lanval. Et je dois dire que quand on m'a demandé de venir, j'ai été stressée. Parce que, vous savez ça, dans un sens, je sais que je suis ointe pour des cérémonies, mariage, enterrement, baptême. Et quand il y a une cérémonie funèbre, j'y vais avec beaucoup de foi. Parce que je sais que la parole de Dieu peut relever les gens. Mais il est vrai que quand il s'agit d'enfants, l'hôpital Lanval est un hôpital pour enfants. C'est pas naturel pour un parent d'aller porter le corps de son enfant en terre. Déjà la mort, on n'aurait pas dû connaître ça, nous les êtres humains. Mais là, alors j'y suis allée avec préparée, avec crainte et tremblement. Et là, il y avait une enfant qui devait avoir, je pense, à peu près 7 ans. Et cet enfant était tellement traumatisé que quand je lui ai posé des questions, elle ne parlait plus. Comment t'appelles-tu ? Une enfant, mais belle. Belle. Elle avait sa petite sœur et puis un monsieur, je ne sais pas si c'était son papa. Mais cet enfant-là était tellement sous le traumatisme qu'elle ne pouvait plus. Elle n'avait pas de mots pour décrire ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vu. Le traumatisme conduit aussi souvent à l'isolement. Et ça, c'est une technique du diable qui peut vraiment pousser quelqu'un à la dépression. C'est-à-dire, personne ne veut écouter mon histoire. Par exemple, des personnes qui ont été des victimes du nazisme pendant la Shoah, qui ont été dans des camps de concentration. Beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent même pas ne croient même pas que quelqu'un peut écouter ce qui leur est arrivé. À un sentiment de désespoir, il n'y avait rien à faire pour arrêter ce qui s'est passé. Rien ne sera jamais plus comme avant. Et vous savez les amis, c'est vrai, rien ne sera jamais plus comme avant. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter, surtout quand on a perdu quelqu'un. Mais on peut apprendre à vivre avec le changement. On peut apprendre à vivre avec de l'espoir. On peut tout simplement apprendre à revivre quand quelqu'un a subi un tel traumatisme. Quels sont les symptômes du traumatisme ? Il y a L'aspect cognitif, c'est-à-dire les pensées, aspect physique, aspect émotionnel, comportemental et spirituel. Je reviens là-dessus. Les symptômes du traumatisme. Parce que, vous savez, quand les gens sont traumatisés, je pense que vous avez compris maintenant, très peu vont venir vers nous en disant « je suis traumatisé ». Si c'est un traumatisme qui est profond, les gens ne viendront pas vers vous. C'est pour ça que l'autre fois, quand je suis allée sur la promenade, eh bien, j'essayais de regarder. Y a-t-il quelqu'un qui a une position fétale, qui est recroquevillé sur lui-même? Est-ce que je vois quelqu'un qui reste assis pendant longtemps à fixer un point? Déjà, c'est pas normal de se perdre dans les pensées, c'est-à-dire qu'on ne les contrôle pas. Mais longtemps, c'est dangereux. Et j'ai observé, je n'ai trouvé personne. Mais nous pouvons repérer les symptômes de quelqu'un qui est traumatisé. Alors, quel est cet aspect cognitif? Les pensées. Ben, c'est quelqu'un qui est confus dans ses pensées. Bien, évidemment, si quelqu'un est déjà confus dans ses pensées, ça ne veut pas dire qu'il est maintenant traumatisé. Mais si quelqu'un ne l'était pas, et que vous observez que la personne est confuse, ses phrases, il ne les termine pas, il parle d'un sujet, il parle de l'autre, il n'arrive pas à se concentrer. Il y a aussi des prises de décision difficiles. Vous savez, il y a des gens, ils n'arrivent pas à prendre de décision. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne sais pas. Bon, tu vas au cinéma ou tu vas te promener? Ah, je ne sais pas. Bon, allez, vas-y, toi, décide. Bon, là, il y a, de toute évidence, il y a un manque quelque part. Mais si c'est quelqu'un qui normalement prend des décisions et que la personne dit « non, je ne sais pas, non, je ne sais pas ah », ben, il y a peut-être un traumatisme là. Également, risque de désorientation. La personne ne sait plus ce qui est devant elle, ne sait, je ne sais pas ce qui va se passer demain, on verra. Tu as tel rendez-vous, écoute, oui, bon, on va voir. Les symptômes de traumatisme, aspect physique, il y a une transpiration excessive. Et la personne est en train de s'éponger. Peut-être des étourdissements. Je ne me sens pas bien là tout d'un coup. Respiration haletante. La tension qui monte. Symptômes sous un aspect émotionnel. Un état de choc. Peut-être une colère. C'est normal à un moment d'avoir une colère, mais c'est une colère qui dure, un sentiment d'être dépassé, profond désespoir, voire dépression. Comment peut-on repérer le traumatisme en observant le comportement de quelqu'un? Ben, il y a un changement de personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui avait une personnalité joyeuse et qui est complètement renfermé. Ou c'était quelqu'un qui avait une personnalité qui au contraire était très discrète et tout d'un coup elle est très exubérante. Modification des habitudes alimentaires. Peut-être que cette personne cesse de manger ou au contraire mange beaucoup plus. Ou tout d'un coup fait une lubie sur certains aliments alors c'est pas juste un élément. Vous comprenez qu'il y a tout un ensemble. Si quelqu'un dit moi j'arrête de manger du gluten aujourd'hui, croyez pas qu'il est traumatisé. Certains, vous savez que tous les enseignements sont enregistrés, hein, donc vous pourrez rire de ma blague un petit peu plus tard. Bon, la négligence de son hygiène personnelle. C'est une personne qui ne se coiffe peut-être pas, qui est négligée d'apparence, qui se maquillait, ne se maquille pas, des choses comme cela. Qui est en retrait des gens. Ça, c'est le comportement. Une personne qui reste à la maison, qui ne veut plus voir personne, qui sortait avant, qui invitait toujours quelqu'un à la maison et qui ne le fait plus. Dépendance de drogue ou d'alcool. Ça, c'est encore un autre symptôme. Aspect spirituel. Les doutes sur Dieu viennent. Encore une fois, personnellement, je trouve que c'est sain de se poser des questions sur sa doctrine. Moi, à différents niveau, degré, période de ma vie, je le fais. Alors, évidemment, j'ai des assises maintenant. Hein. Il y a des choses, c'est pas négociable. Dieu est bon, c'est pas négociable pour moi. Dieu est juste, c'est un filtre, c'est pas négociable. Mais j'ai pu asseoir cette doctrine parce que j'ai étudié. Mais néanmoins, quand j'entends parfois des enseignements contradictoires, et parfois je le fais intentionnellement, parce que si j'entends quelque chose de contradictoire, ça va me pousser à étudier la parole et ou à changer d'avis, et si j'ai besoin de changer d'avis, je le veux, ou alors à asseoir ma doctrine. Mais là, c'est quelqu'un qui tout d'un coup remet en question, Dieu, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que Dieu entend vraiment les prières? Est-ce que Dieu m'aime? La colère envers Dieu, impression de vide spirituel ou de culpabilité, ou c'est une personne qui va se tenir en retrait, loin de sa famille, des amis et de l'Église. Alors, quelles sont les réactions auxquelles on peut s'attendre? Écoutez bien, ici, ce sont des réactions qui sont normales. Une situation normale, une réaction normale à une situation qui est anormale. Quelquefois, les gens disent « Ouais, mais tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire cela. » Non, mais attendez, il faut bien des réactions. Une paralysie émotionnelle, quelqu'un qui n'arrive pas à pleurer, ou quelqu'un qui reste bloqué sur les pleurs. Quelqu'un qui se sent détaché ou dépassé, des souvenirs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et là, mes amis, il faut que le sang de l'agneau sépare cette personne des événements. Des pleurs incontrôlables, incontrôlées, troubles du sommeil, tendance à être facilement effrayé, ou quelqu'un qui est toujours en train de regarder derrière. Moi, un jour, vous savez, c'était... Vous m'avez déjà entendu ça, j'étais dans une banque et puis j'apportais une remise de chèque, je faisais une remise de chèque. Et puis tout à coup, je la fais courte, il y a eu un braquage. Il y a eu un braquage et puis ceux qui avaient quand même des armes se sont approchés. On était à un mètre, deux mètres l'un de l'autre. Et tout de suite, j'ai invoqué le sang de l'agneau et j'ai senti comme un tube, voilà. C'est comme ça. C'est un tube de protection qui m'est tombé dessus. Et j'étais dans le tube. Et j'étais mais sûre que rien de fâcheux ne m'arriverait. Mais c'est pas seulement à moi que je pense dans ces cas-là. Et j'ai dit, Seigneur, je refuse qu'il y ait de la violence. Je refuse. Donc je priais. Et puis bon, ben, ils sont partis, etc. Et bien, je vous assure, quand je suis sortie, j'ai dû lutter et prendre sur moi pour ne pas me retourner pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me suivait ou qui arrivait derrière en courant comme cela avec une arme. Et si j'avais cédé à ce réflexe, si je l'avais accepté comme réflexe, si j'avais accepté cette peur, mes amis, j'aurais été liée. Donc j'ai dû me saisir en disant « ne te retourne pas ». Et la peur était là, elle me disait « si, retourne-toi, si quelqu'un vient, et si jamais, si ». Et j'ai dit « non, je ne me retournerai pas, je suis libre de la peur ». Bon, évidemment, ça a peut-être duré un jour et puis après c'était parti. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même cette tendance-là qui est là. Également, donc, les réactions, ça peut être un usage d'alcool, de drogue. Je ne parle pas de prendre un verre pendant un repas. Hein. L'isolement, la fatigue. La personne, depuis l'événement, dit « Ah, je suis fatiguée. Ah, j'en peux plus. Ah, je suis fatiguée. » Encore une fois, ce n'est pas un signe, c'est un ensemble. Un manque de motivation. Un sentiment de culpabilité ou de profond désespoir. Pourquoi est-ce que j'ai amener ma petite fille avec moi? Pourquoi? Ou alors ça peut être de culpabilité. Un père qui dit « j'aurais préféré moi mourir. Pourquoi je suis en vie ?» Les facteurs qui contribuent à la douleur, vous m'accordez encore un petit peu de temps? C'est un marathon, mais vous savez, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Et vous pouvez reprendre cet enseignement, vous pouvez le surtout être à la disposition de Dieu pour l'utiliser. Et je vais vous dire, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le Seigneur nous enseigne, mais à un moment donné de notre vie, ça va nous servir pour nous. Quelquefois, on dit, oh, ben, c'est bien, tiens, je vais écouter cela, ça va être pour les autres. Mais un jour ou l'autre, tu en auras besoin. Tu en auras besoin pour quelqu'un de ta famille. Et là, tu remercieras Dieu parce que tu seras équipé. Alors, les facteurs qui contribuent à la douleur, ben, y a une perte matérielle, objet, environnement habituel. Si par exemple, il y a un incendie dans une maison, bon ben, y aura une perte matérielle. Quelqu'un qui a subi un vol, perte relationnelle, par exemple, un divorce, ça va créer une incapacité à toucher, à aimer, à être en relation avec une autre personne. Perte d'identité, ça va créer une perte de l'image de soi, des projets, de l'espoir. Perte comment ? Par exemple, quelqu'un qui perd son statut social lors de la perte d'un emploi. Cette personne se trouvait peut-être à un certain niveau social et tout d'un coup, toute sa vie part en spirale descendante. Eh bien, c'est l'image de soi qui risque d'être impactée. Également, la perte des fonctions, qu'elles soient mentales, physiques ou neurologiques. Quelqu'un qui a un accident, qui est paralysé, eh bien, c'est un facteur qui va provoquer un traumatisme. La perte de rôle. Par exemple, un père de famille qui perd un emploi et qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Il y aura traumatisme. Et une perte systémique d'une résidence, d'une église, d'une communauté. Par exemple, ben, il y a un déménagement, peut-être justement à cause du travail, et il y a un des enfants qui est traumatisé parce qu'il a changé d'adresse. Il n'est plus dans la même maison, il n'est plus dans la même école, il n'a plus ses amis autour de lui. Alors, comment retrouver l'espoir dans la douleur ? Parce que c'est quand même de cela dont il s'agit. L'empreinte de la douleur est une souffrance émotionnelle intense et c'est comme une empreinte digitale, c'est-à-dire la douleur est unique et elle est personnelle. Et ça, si vous êtes amené à écouter quelqu'un qui a été traumatisé, eh bien je prie pour que l'Esprit de Dieu vous rappelle ceci. La douleur est unique. Le psaume 9:10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, ça c'est l'espoir. Un refuge au temps de la détresse. Tu auras toujours un refuge. Psaume 46:2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jérémie 16:19, l'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Comment réconforter dans la douleur ? C'est-à-dire qu'il y a d'abord un choc, un déni, une négociation, une colère, une dépression, l'acceptation. Il y a toutes ces émotions qui vont suivre le traumatisme, qui vont suivre l'événement. Bien, il y a le choc, la perte de quelqu'un, le déni. Il y a des symptômes de désespoir, paralysie émotionnelle, repli, désorientation, difficulté à prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, c'est la présence. Ne cherchez pas à parler, ne cherchez pas à donner tous les versets que vous connaissez, ne cherchez pas à lui prouver que Dieu... Non ! Juste, on est là, on écoute, on prie intérieurement. Peut-être on demande, est-ce que je peux faire quelque chose de pratique ? As-tu besoin que je te lave du linge ? Veux-tu que j'aille chercher tes enfants à l'école ? Et puis très souvent après, il y a la colère, c'est la frustration, c'est l'anxiété, c'est l'irritation. On a tendance à rejeter la faute sur la famille, les docteurs, les premiers secours et même sur Dieu. La Bible nous dit qu'on a en face de nous quelqu'un qui est en colère à cause de ce qui est arrivé. Proverbes chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur. Ne pas essayer de raisonner ou de justifier, mais être à l'écoute avec amour. Faire preuve de sensibilité, car la personne passe par une épreuve difficile. Et là, peut-être qu'on peut lui dire, puis-je prier pour toi ? La personne dit oui, la personne dit non, c'est ok. On peut toujours le faire à la maison, on peut toujours le faire intérieurement. Puis quelquefois, la personne entre dans un temps de négociation parce qu'il y a des sentiments de culpabilité, de responsabilité personnelle. Et la personne va essayer de marchander avec Dieu. Quelle est l'approche ? sans marchander, c'est peut-être une opportunité de parler de Jésus, de l'espoir, du réconfort que lui seul peut apporter. Le psaume 2 Samuel 24, 14 dit « Je suis dans une grande angoisse, ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Si la personne continue, malgré la colère qu'elle a pu exprimer, malgré le premier choc, le déni, même si la personne passe par une phase de négociation avec Dieu, « Je ferai ceci si tu fais cela », eh bien, si la personne poursuit, elle risque de tomber dans la dépression. Un sentiment de désespoir, de désespérance, un immense sentiment de perte, peut-être même des pensées suicidaires. La routine devient difficile. Faire une machine à laver devient difficile. Faire son lit est impensable. Aller chercher les enfants à l'école, ce qui avant était une joie, devient un énorme fardeau. Une perte d'intérêt pour les tâches même les plus simples et certainement peu d'intérêt pour les autres parce que la personne est complètement consumée avec elle-même. Dans cette période, la prière est essentielle. Il faut encourager et montrer beaucoup d'attention avec des paroles d'espérance. Et puis, pourquoi ne pas lire un psaume en présence de cette personne ? Parce que les psaumes, la personne très souvent peut s'identifier à l'auteur du psaume qui dit « Seigneur, je suis dans la détresse, mais j'invoque ton nom et je te réponds ». Il y a une phase qui est celle de l'acceptation, qui est si la personne arrive à cette phase, elle s'en sort. C'est-à-dire que la personne accepte que la vie va changer et a changé. C'est-à-dire, je ne vais plus vivre en présence de telle personne. Ou alors, eh bien, je suis sur un fauteuil roulant. Ou alors, je ne peux plus retourner travailler. Et la personne qui accepte le changement va commencer à entreprendre. Cette personne n'est plus consumée par le désespoir, mais la douleur va revenir par vagues. Ce n'est pas parce que la personne a accepté que ça y est. Non, il y a des douleurs qui, par moments, vont revenir. Le premier anniversaire, le premier Noël, le premier un an plus tard, une semaine plus tard. Un intérêt, la personne, avec, quand elle accepte, va trouver un intérêt renouvelé pour elle-même, pour les autres, pour les activités et la vie en général. Alors écoutez-moi bien, c'est sans doute le moment le plus approprié pour partager l'amour de Dieu en Jésus-Christ, pour partager l'évangile. Ce qui veut dire, avant, ce n'est pas le moment. Et combien de chrétiens, je comprends qu'il s'agit d'avoir des bonnes intentions. Et tout à l'heure, c'était ce qui était écrit justement dans le PDF. Hein. Comment peut-on aider ? Avec de bonnes intentions, sans faire mal. C'est que parfois les chrétiens pensent qu'il faut, permettez-moi l'expression, fourguer l'évangile. Ne soyons pas nerveux. Quand nous avons accepté Jésus, nous avons la présence de Dieu en nous. Et une personne qui souffre, oui, bien sûr, a besoin de l'évangile. Mais la meilleure manière de lui présenter l'évangile, c'est en chair et en os, par la présence et l'écoute. La présence, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais terminer. Je réalise que ce culte est différent, mais ce que l'on a vécu la semaine dernière était différent. Donc on peut s'adapter, on peut faire les choses. J'ai plus l'impression de vous donner ce que j'aurais dû vous donner lors de ces fameux week-ends studieux que l'on fait. Et là, il y a une abondance, moi ou les invités, il y a une abondance d'informations, une abondance de paroles. Mais il m'a semblé bon que tout le monde devait être équipé avec sans plus attendre, avec ce genre d'informations. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas dire, dis à ton voisin, ce que tu ne vas surtout pas dire. Dis à ton autre voisin, surtout pas. Dis à ton autre voisin, maîtrise-toi. Il y a des questions que tu ne vas pas poser et des choses que nous ne pouvons pas dire à quelqu'un qui est traumatisé. Comment ça va ? Une semaine après l'attentat. Alors, comment ça va ? Cherchez l'erreur, juste cherchez l'erreur. Ou alors, je sais ce que vous ressentez. Ben, c'est faux. C'est faux. La douleur est unique et puis en plus, je n'ai perdu personne. Ou alors, je n'étais pas là. La relation que j'avais avec cette personne, je ne l'avais pas. Je ne sais pas. Ou alors, la fameuse phrase, le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit l'Éternel. On va se rappeler que cette phrase est une phrase de l'Ancien Testament et de quelqu'un qui n'avait pas la révélation de Dieu, la preuve, c'est qu'il s'est embourbé dans toutes sortes de rébellions et le Seigneur a dû recadrer Job clair et net. Est-ce que le Seigneur donne ? Est-ce que le Seigneur reprend ? Non, ce n'est pas un voleur. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, il n'y a qu'un seul qui vole. Ou alors, oh, ça va passer. La personne est en bas, elle est dans le désespoir, elle a peut-être des paroles de suicide, et puis elle s'entend dire, ben la vie doit continuer, vous allez voir, ça va aller mieux bientôt. Ou, tout finit par s'arranger. Tu dis ça à quelqu'un qui avait un poste important et qui se retrouve sans le moindre sou, qui a dû vendre sa voiture, qui a peut-être en plus vu son épouse partir. Tu sais, je ne crois pas qu'il soit prêt à entendre ce genre de phrase. Je suis sûre que ça n'arrivera jamais plus. Juste une question, comment peux-tu en être sûr ? Comment pouvons-nous être sûrs ? Nous ne sommes pas sûrs. Ça irait mieux si vous arrêtiez de pleurer. Vous savez, il y a une raison si ces phrases sont là. Ça semble ahurissant. Également, ne permets pas que ça te vole ta joie. Ben, justement, si, sa joie a été volée. Alors, ce que l'on peut dire, posons cette question. Comment arrivez-vous à tenir le coup ? Ou alors, où étiez-vous quand vous avez appris la nouvelle ? Une autre question qu'on peut poser, connaissez-vous quelqu'un qui a été touché ? Y a-t-il quelque chose de particulièrement dur à accepter ? Je ne peux pas m'imaginer comme ça doit être difficile. Tu sais, ça fait du bien à quelqu'un qui est traumatisé de s'entendre dire que oui, c'est difficile. Oui, on admet, oui, c'est difficile. Avez-vous de la famille ou des amis pour vous aider ? Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Parce que ben, peut-être que la personne est seule dans la région, sa famille est ailleurs. Y a-t-il une église pour vous soutenir ? Et enfin, puis-je prier pour vous ? Alors voilà ce qu'il a semblé bon de vous apporter. Et est-ce que vous avez apprécié ce... Vous savez, la Bible dit, merci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui connaît la vérité, eh bien, il peut apporter la liberté aux autres. Sans compter que il se pourrait qu'un jour... Que Dieu nous garde. Mais il y a des gens qui partent autour de nous. Il se pourrait qu'un jour, on ait à se rappeler soi-même ce qu'il faut faire pour surmonter un traumatisme. Il y a un livre, et puis on vous l'a présenté il y a quelque temps, et combien ils ont été inspirés de le sortir il y a quelques semaines, un livre de Tony Cook des éditions Victoire Centre Chrétien, et pourtant la vie continue. Alors, je vous recommande de vous le procurer, de le lire, cela va renforcer ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et en tout cas, en tant qu'Église, nous allons faire une offrande au ministère de Billy Graham, parce que c'est le moment. On a reçu, donc on va apporter une offrande. L'Église le fera, on prendra des dîmes, mais je veux que vous le sachiez. Parce que cet enseignement que nous avons reçu, et les personnes qui entendent ce message également, que ce soit sur Internet ou podcast ou autre, eh bien, moi, je vous encourage, faites une offrande au ministère de Billy Graham.